prendre son temps et se le perdre. Dans le livre de Camus, La Peste, page 24, on retrouve dans les carnets de Tarou, qui est l'un des personnages, le passage suivant. Je cite. « Question. Comment faire pour ne pas perdre son temps ?» Réponse. « L'éprouver dans toute sa longueur. » Moyen. « Passer des journées dans l'antichambre d'un dentiste sur une chaise inconfortable. » Vivre à son balcon le dimanche après-midi. Écouter des conférences dans une langue que l'on ne comprend pas. Choisir les itinéraires de chemin de fer les plus longs et les moins commodes et voyager debout, naturellement. Faire la queue au guichet des spectacles et ne pas prendre sa place, etc. Fin de citation. La question aujourd'hui ne semble plus être « prendre son temps, est-ce le perdre ?» mais plutôt « que faire ?» c'est-à-dire « quels moyens puis-je employer pour éviter de perdre mon temps ?» S'il est une chose que l'on déteste par-dessus tout, et surtout de nos jours, c'est faire quelque chose pour rien. C'est le sentiment de futilité qui s'y rattache. Aussi, on a trouvé une solution élégante. À défaut de ralentir le temps pour le remplir un peu plus, ce que seul Dieu pourrait faire, ou peut-être à la rigueur un astronaute qui serait lancé à pleine vitesse dans l'espace, encore que cette situation ne permette pas forcément de faire grand-chose, ou encore Superman, qui tourne en sens inverse de la Terre pour en inverser la rotation et remonter le temps. On voit ça dans le premier film, parenthèse, quand même très drôle, parce que à part bousiller le climat, on ne voit pas trop en quoi inverser la rotation de la planète ferait remonter le temps. Mais admettons. Bref, à défaut de ralentir le temps, nous avons trouvé une parade. Nous accélérons nos rythmes de vie. La tendance à l'accélération a été progressive, mais elle s'est encore accentuée depuis environ une vingtaine d'années. On pourrait dire, en quelque sorte, qu'on a accéléré notre accélération. En témoignent d'ailleurs nos expressions liées à la temporalité. À l'idée de la fuite du temps, ça c'était les expressions à l'ancienne, le temps passe, le temps s'écoule, le temps s'en va. Notre glorieuse entrée dans le capitalisme s'est accompagnée d'un vocabulaire centré sur la rentabilité. Il faut gagner du temps, ne pas en perdre, prendre acte du fait que le temps c'est de l'argent, etc. Mais pire encore, depuis une vingtaine d'années, de nouvelles métaphores sont apparues. On parle de compression, de contraction du temps. Ces métaphores expriment l'idée que le temps se vit dans des délais toujours plus courts et qu'un maximum de choses doit être accompli en un minimum de temps. Donc en quelque sorte, on pourrait dire qu'on est passé d'un idéal grec d'accomplissement de soi à une logique de dépassement de soi. Mais à force de se dépasser, on risque de se perdre de vue. Alors, ces phénomènes d'accélération de soi conduisent bien souvent à un sentiment de dépossession de soi et qui débouchent sur de nouvelles formes de décompensation, voire même de nouvelles pathologies, mais on y reviendra, et qui s'accompagnent, là encore, d'un vocabulaire de circonstances. On surchauffe, on a le sentiment de tourner en rond, on pète les plombs. Bref, on est devenu des machines poussées à plein rendement ou hors de leur capacité. Alors, tout cela a évidemment une portée sociale, mais bien plus encore, tout cela a une portée existentielle. Pourtant, on peut déjà s'interroger, est-ce que cela est si nouveau ? L'homme s'est-il senti un jour maître de son temps ? Et puis du temps, pour quoi faire d'ailleurs ? Ce sera à peu près les questions qui nous occuperont. Mais plus précisément, pour analyser un peu cette situation qui est la nôtre, on va aborder ce soir trois points. D'abord, on va se demander pourquoi notre rapport au temps a changé. Et comme j'aime bien donner des titres à mes parties, j'ai appelé ça l'accélération, une justification, point d'interrogation, même si la réponse ne fait pas vraiment de doute. Puis nous chercherons ce que ces changements dans notre temporalité traduisent, l'accélération, un divertissement. Et enfin, nous ouvrirons un troisième moment, qui s'annonce d'emblée comme le plus rigolo, parce qu'il se nomme « le temps de l'existence, de point, la mort, l'ennui et la vie authentique ». Alors, j'ai pas mis, pour pas vous angoisser, justement, l'angoisse. Ce sera aussi au centre de nos problèmes. En gros, on pourrait dire l'angoisse, l'ennui, la mort et la vie authentique. Et j'avais peur de vous faire peur. Nous chercherons en tout cas à savoir que faire de son temps, pour terminer, comme il est assez peu coutume, par ou sur un éloge de l'ennui. Ce sera un petit peu notre thèse ce soir. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société qui ne supporte plus de s'ennuyer, donc qui ne s'ennuie plus. Alors, comme j'ai beaucoup de choses à dire, je vais directement à l'essentiel. Normalement, je fais des pauses pour bien marquer les différences. Bon. Pourquoi notre rapport au temps a changé ? On va aller, malgré tout, du plus commun vers le plus profond. On va essayer de faire ça, c'est-à-dire on va commencer par quelques considérations qui peuvent sembler un peu anecdotiques, dans un premier temps. Mais on va très vite glisser du côté de la philosophie, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas. D'ailleurs, peut-être êtes-vous aussi ici pour cela, pour entendre un peu d'anecdotique. Parfois, ça fait du bien. Mais en tout cas, commençons par décrire un tout petit peu notre nouveau rapport au temps. Selon les travaux d'Hartmut Rosa, qui est un chercheur actuel, la modernité se caractérise par une triple accélération. Évidemment, ça ne vous a pas échappé, une accélération technique d'abord, qui montre un rythme croissant dans l'innovation, dans la communication, dans les transports, etc. Il y a une accélération, une deuxième accélération, qu'on pourrait dire, de changement social et qui concerne les institutions. Donc, ça concerne aussi bien les liens familiaux que le rythme du travail, dont la stabilité, par exemple, est de plus en plus menacée et qui exige un rendement de plus en plus fort. Et enfin, tout cela va encore de pair avec un troisième type d'accélération, qui est l'accélération du rythme de vie et qui touche plus particulièrement l'expérience existentielle des individus, c'est-à-dire, en gros, le sentiment constant que le temps nous manque, donc le temps nous est compté. Alors, bien sûr, souvent, ces trois types d'accélération se combinent. Et je vous donne évidemment un exemple emblématique, qui est l'envoi de mails. Je ne vais pas commencer par Facebook ou ce genre de choses. D'ailleurs, je vais éviter. On va quand même éviter ce genre de critiques. Enfin, il y en aura quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Mais on ne va pas tout faire tourner autour de cela. Mais l'envoi de mails est un cas qui me semble assez rigolo et assez un peu souvent sollicité, parce qu'on se dit tous que c'est formidable de pouvoir avoir une réponse instantanée, etc. Enfin, tous, sauf moi qui peste depuis à peu près 15 ans contre tout cela. Pourquoi ? Eh bien, parce que, évidemment, oui, l'envoi de mail est infiniment plus rapide que les courriers postaux. En plus, ça nous évite de coller le timbre n'importe comment, l'écriture penchée, ce genre de choses. Mais ce qui devrait se traduire comme un gain de temps devient en fait quelque chose de totalement contraire. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations tel, désormais, qu'on aboutit au sentiment croissant d'être de plus en plus submergé. À tel point que si je ne regarde pas trois fois ma boîte mail, vous voyez déjà, j'ai déjà le discours complètement anti-technologie. Si je ne regarde pas trois fois ma boîte mail, j'ai peur, si je ne le regarde même pas pendant trois jours, allez, admettons trois jours, on a quand même le droit de ne pas regarder sa boîte mail trois jours. Eh bien non, en fait, on n'a pas le droit, parce qu'après, on énerve notre interlocuteur qui nous a déjà envoyé trois mails, si vous voulez. Bon, on est obligé de regarder, sinon, moi, c'est un peu le problème. Bon, déjà, je pars dans moi et ma vie, mais c'est un peu le problème, c'est-à-dire que quand je ne regarde pas trois jours, je m'en rends compte, je vois toute une ribambelle de mails, dont des titres insultants, enfin, peut-être pas quand même, et du coup, je ferme, je n'ose pas les regarder, et donc je laisse passer une semaine, ce qui est encore pire. Donc après, vous n'ouvrez plus jamais votre boîte mail, vous changez d'amis, enfin, c'est juste difficile, il faut faire sans arrêt de nouveaux amis. Bien, bref, donc le problème, c'est cela, c'est ce qui devait au départ nous faire gagner du temps nous a complètement submergés. Et on pourrait se dire que tout ce qui est autour du mail résume assez bien, finalement, l'espèce de paradoxe des technologies modernes. Alors évidemment, le pire étant les réseaux sociaux, mais ça j'en avais déjà parlé, alors je vais éviter, parce que certains d'entre vous sont des fidèles et veulent pas entendre toujours les mêmes anecdotes, mais dans les réseaux sociaux, une absence de commentaires de photos passe pour une insulte. T'as pas aimé ma photo. Non, je l'ai même pas vue. T'as pas vu ma photo. Bref, depuis quelques dizaines d'années, particulièrement les 20 dernières, une nouvelle façon de vivre le temps est apparue, qui se vit dans la contraction, dans des délais toujours plus courts, dans l'idée que de plus en plus de choses doivent être accomplies en même temps. Donc, alors vous allez me dire, c'est pas très nouveau, et puis dans un sens, puisque je peux avoir aujourd'hui une réponse dans l'instant, eh bien c'est normal que je l'exige. Mais il y a une nouveauté dans cette société très moderne, c'est le fait que l'urgence était avant cantonnée d'abord dans les milieux médicaux, ou des milieux de ce type, et aujourd'hui a plutôt envahi tous les domaines. Alors voilà en gros le constat, la crise, la critique de la modernité en général qu'on aperçoit. Maintenant essayons d'aller un peu plus profondément dans le sujet, essayons de voir d'où vient ce changement dans la temporalité. Alors on ne va pas le situer d'emblée dans les 20 dernières années, on va situer beaucoup plus en amont et se dire que la perte de temps ou le gain de temps trouve d'abord un écho dans une transformation des habitudes sociales et au départ particulièrement dans le domaine du travail. Donc si on repart de moments clés où les premiers changements de rythme de vie moderne apparaissent et en tout cas se transforment d'une façon drastique, eh bien on peut se dire que tout cela débute... Bon, évidemment, au moment où des machines ont permis d'accroître le niveau global de vie, donc, etc., mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, lorsque la production industrielle est devenue une production de masse, qui s'est bien sûr accompagnée, on le sait, d'une consommation de masse. Alors, tout cela n'est pas nouveau, et Hannah Arendt va, notamment dans Conditions de l'homme moderne, dénoncer ce type de consommation. Mais surtout, elle va faire un rapport intéressant en comparant le travail et l'œuvre. Que va nous dire Hannah Arendt ? Eh bien que le mode de consommation nouveau qui apparaît va transformer l'objet lui-même. Et aujourd'hui, on va avoir un objet produit en industrie, un objet standardisé et la plupart du temps un objet sans âme. Donc on se rend compte évidemment, là encore, pouf, j'enfonce les portes ouvertes, je mets les pieds dans le plat, mon salon est entièrement Ikea, j'en suis très fier, il est très beau, mais j'ai l'impression de rentrer dans mon salon quand je vais chez mes amis. Ils ont les mêmes meubles que moi, on a les... Bon, bref. Au moins c'est bien, il y a un sentiment d'appartenance. Mais on n'est pas obligé, vous allez me dire, d'aller à Ikea, mais voilà l'objet standardisé. Alors, il est sans âme, c'est pas tout à fait vrai, on le trouve très beau, etc. Mais bon, c'est pas un objet fait pour durer. C'est un objet, et ça, c'est Arendt qui le dit, c'est un objet qui est fait pour être jeté rapidement et remplacé par un autre semblable. Selon elle, en tout cas, alors que l'objet artisanal était apprécié, qu'on en prenait soin, et surtout qu'il contribuait à créer un monde stable, hein, dans lequel on reconnaissait et le savoir-faire des hommes, et puis aussi on avait des repères, ce qui n'est pas faux. Aujourd'hui, à force de prendre des objets, de les jeter, etc., déjà au niveau spatial, les repères s'effacent, on recycle sans arrêt, ça se transforme sans arrêt, les objets sont faits pour être en eux-mêmes consommés. D'ailleurs, il y a toujours cette espèce d'horreur quand on achète, par exemple, une télévision, etc. On le sait maintenant depuis pas mal de temps, mais a priori, ce serait vrai. Les objets sont faits pour avoir une durée de vie limitée. Donc, votre machine à laver qui durait 15 ans, ou la mienne, hein, plus aujourd'hui, la télé que vous aviez depuis 1956, oui. Bon, elle, ça fait un moment quand même. Mais bref, aujourd'hui, effectivement, on a plutôt des objets produits en série et peu estimés. Et l'homme perd peu à peu la satisfaction profonde qu'il avait dans son rapport à l'objet produit par des hommes, et donc son rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que face à un monde d'objets qui change sans cesse, eh bien, c'est aussi une partie de nos repères spatiaux et temporels qui s'effacent. Je me permets de citer un petit passage de Conditions de l'homme moderne. « Avec le besoin que nous avons de remplacer de plus en plus vite les choses de ce monde qui nous entoure, nous ne pouvons plus nous permettre de les utiliser, de respecter et de préserver leur inhérente durabilité. Il nous faut consommer, dévorer, pour ainsi dire, nos maisons, nos meubles, nos voitures, comme s'il s'agissait des bonnes choses de la nature qui se gâtent sans profit, à moins d'entrer rapidement dans le cycle incessant du métabolisme humain. Les idéaux de l'Homo Faber, fabricateur du monde, la permanence, la stabilité, la durée, ont été sacrifiés à l'abondance, idéal de l'animal laborans. » Alors, en gros, que nous dit-elle, Arendt ? Eh bien qu'il y a dans le monde moderne une perte irréparable, celle de l'œuvre, qu'il ne faut pas confondre donc avec le travail. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre ? C'est le produit de l'artisanat, d'un savoir-faire, qui a pour fonction, et c'est ça l'essentiel, de fixer le monde dans la durabilité. C'est parce que l'homme est un être vivant qu'il a des besoins qu'il travaille, mais c'est parce qu'il est un être humain qui imprime sa marque dans le monde qu'il œuvre. Voilà en gros ce que nous dit ici Hannah Arendt, et je la cite de nouveau, mais je me rends compte qu'elle ne gagne pas à être citée, C'est toujours un peu costaud déjà à lire, alors à entendre, c'est encore pire. Nous vivons dans une société de travailleurs parce que le travail seul, par son inhérente fertilité, a des chances de faire naître l'abondance. Et nous avons changé l'œuvre en travail, nous l'avons brisée en parcelles minuscules, jusqu'à ce qu'elle se prête à une division où l'on atteint le dénominateur commun de l'exécution la plus simple, attention c'est là que c'est important, afin de faire disparaître devant la force de travail l'obstacle de la stabilité contre nature, purement de ce monde, de l'artifice humain. Bon, même en le relisant, j'ai du mal. Bon. Le monde des choses issu du monde industriel est un monde sans qualité, autrement dit un monde où la qualité a été systématiquement sacrifiée à la quantité. Donc l'homme perd ses repères, hein, il remplace sans arrêt, même les objets faits pour durer ne le sont plus, et ils sont faits pour être remplacés, et donc on a au fur et à mesure une transformation spatiale certes, mais surtout temporelle, et un monde qui perd de sa densité. Voilà ce que nous dit ici Arendt. Alors évidemment, on pourrait se dire qu'elle noircit un peu le tableau. Et que l'usage des machines notamment, la société de consommation, tout cela apporte aussi autre chose. Et on peut trouver effectivement, on peut trouver déjà au moins une personne pour défendre cette idée, en la personne de Bergson. Bergson, dans les deux sources de la morale et de la religion, va dire, alors j'avais un beau passage, mais j'ai peur que ce soit un peu la même chose, alors je vais plutôt vous le résumer, va dire la chose suivante. Le problème n'est pas tant le développement de l'esprit d'invention, etc., ce n'est pas tant l'exigence de la science, les nouveautés technologiques, etc., qui nous font rentrer dans cette espèce de course à l'urgence, c'est pas cela, c'est plutôt le fait que l'esprit d'invention ne s'est pas toujours exercé au mieux des intérêts de l'humanité. Donc c'est pas une question de machine, ça serait trop facile, c'est pas une question de progrès scientifique, c'est une question de qu'est-ce qu'on veut bien en faire de tout cela. Et Bergson reconnaît, alors c'était au début du siècle, du coup dernier, je m'y habitue toujours pas à ça, que nous dit Bergson au début du 20e, eh bien que les machines, etc., c'est un progrès. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien un moment où cette course à la superficialité, cette espèce d'appel aux sirènes du matérialisme, etc., tout cela un jour va s'effacer, va se ternir, et on va arriver à utiliser les machines comme il le faut, utiliser les technologies comme il le faut, alors je rajoute parce que technologie n'était pas un mot d'usage au moment du bergsonisme, mais on va l'orienter dans la bonne voie, et du coup ça va faire quoi ? Eh bien ça va nous permettre de spiritualiser le monde. C'est-à-dire que toutes les tâches ingrates vont être laissées aux machines, voilà ce que nous dit Bergson, et on va, c'est un peu l'idéal grec, on va utiliser le temps qui nous reste pour plutôt nous cultiver, pour développer les progrès de l'homme, etc. Donc tout ce qui est spirituel en l'homme. Donc tout est qu'une question de choix et d'orientation. Il y a un moment où le matérialisme, hein, on va bien comprendre ses propres limites. En gros, c'était l'excitation du moment. Oui, il y a eu la révolution industrielle. Bon, et puis ça va cesser et on va arriver dans quelque chose de tout à fait différent. On va enfin devenir un peu plus mûr. Sauf que ça, c'était au début du XXe siècle. Et que je suis d'accord en droit avec lui, mais dans les faits, c'est absolument le contraire qui s'est passé. Donc cette période de latence est un peu longue, enfin avant la maturité de l'humanité. Donc Bergson a-t-il eu tort ? En théorie, non. En pratique, bon. Alors, du coup, revenons à Hannah Arendt. C'est une sorte de duel que j'ai organisé entre les deux. Hannah Arendt avait quand même vu un peu le vent tourner, mais elle est après Bergson, et elle nous avait mis en garde, toujours dans la condition de l'homme moderne, en nous disant qu'on vivait très exactement dans une époque contraire à la cité grecque. L'homme moderne n'est plus capable d'utiliser correctement son temps libre. Alors voilà, on y vient vraiment à prendre son temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, l'homme moderne, là j'ai appris hein, de mes erreurs, je ne vous lis plus. Je vous résume. À moins que vous vouliez que je vous lise, faites oui de la tête, et à ce moment-là, je vous lis des passages non, je vois des noms. D'accord. Bien. Donc, l'homme moderne n'est plus capable d'une activité véritable, justement, d'utiliser son temps libre pour se spiritualiser. Au contraire, il n'est plus capable que de divertissement et de vacances. Voilà ce que nous dit Arendt. C'est-à-dire que l'idéal grec, c'était Bon, alors l'idéal grec, évidemment, là je l'idéalise un peu lui-même, parce que l'idéal grec, c'était plutôt laissons les tâches ingrates aux esclaves, c'était ça, et laissons les aristocrates, les hommes de goût, bref, les Athéniens de sang athénien, mal, si possible, s'adonner à la philosophie, cultiver leur âme, etc. Bon, mais en tout cas, l'homme moderne, qu'est-ce qu'il fait, selon Arendt, qui caricature un peu, mais c'est un peu ça quand même, il s'épuise à la tâche, il se fatigue, il prend pas son temps, non, il accélère ses rythmes de travail, il va, etc. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Ben, quand il rentre, il est crevé, alors il se met, bon ça c'est pas Arendt, il se met devant la télé et il regarde Koh-Lanta, il regarde, je ne sais pas, enfin bon. Il regarde pas des choses très intelligentes et en même temps il n'y a pas grand-chose d'intelligent à la télé. Bon bref, en tout cas, l'homme moderne, il est plus capable que de se poser un bon coup, partir éventuellement en vacances pour récupérer, mais récupérer quoi ? Eh bien, juste de quoi aller retravailler, etc., s'épuiser à la tâche. Bon, c'est un peu ça. Et quel est le problème ? C'est qu'on a complètement dénaturé le travail. C'est-à-dire qu'au départ, Marx nous le rappelait, le travail, c'était d'abord une activité spécifiquement humaine, ce par quoi l'homme gagnait son humanité. C'est-à-dire que contrairement à l'animal, alors je vous le refais, ça je vous l'ai déjà fait au moins 3 ou 4 fois, donc je le fais rapidement, mais l'animal, c'est l'être vivant qui vit dans l'instant, dans le besoin, pof, il a une sollicitation, il a faim, il va manger, il est par enquête, il utilise ses instincts, aucun recul ou si peu. L'homme, au contraire, en général, par son travail, par le fait qu'il est en contact avec l'obstacle, avec la nature, il s'humanise, c'est-à-dire il apprend à différer ses désirs, à, etc., à se reconnaître dans ce qu'il produit, tout ce qui commence à disparaître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, alors ça c'était Marx, mais ça vaut encore aujourd'hui, et plus que jamais, vu que le travail est de plus en plus divisé, ben, l'homme a bien du mal à se reconnaître dans ce qu'il produit. Que ce soit dans un bureau ou que ce soit dans une usine, ça ne change pas grand-chose. Quand vous n'avez qu'à poser une signature, quand on vous inonde complètement de travail, eh bien, vous ne savez plus où donner de la tête, vous devez être le plus rentable possible, mais en fait, au final, vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ce que vous avez produit. Voilà en gros ce que disent Arendt, Marx et moi-même. En général. D'ailleurs, pour faire encore un petit truc, voilà, un petit coup de croche-patte au temps actuel, il y a cette idée que, vous le savez, dans les... A priori, ce qui marche le mieux sur un CV, c'est l'adaptabilité aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus la compétence, c'est pas le type qui a justement manifesté un savoir-faire pendant des années, qui est hyper habile sur sa tâche. Non, il doit pouvoir s'adapter. Il doit toujours être capable de... voilà. Et ça, c'est l'exigence maximale. Pouvoir s'adapter au mieux aux exigences, aux impératifs du moment. Bon, enfin bon, je caricature un peu, mais voilà en gros les transformations qui se font, l'urgence qui apparaît, et le fait que l'homme ne se reconnaît plus du tout dans ce qu'il fait. Donc de ce point de vue-là, on a bien une volonté centrale de ne pas perdre son temps ou de temps, et elle s'enracine d'abord dans ce qu'on a pu voir dans un problème social. Mais ce problème social, évidemment, c'est un problème secondaire parce que tout cela ne fait que refléter un problème bien plus important qui est un problème existentiel. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, j'ai essayé de régler son compte un peu à la société moderne. En quelques mots, c'était un peu rapide, mais essayons de rentrer un peu plus profondément dans justement les changements, ce que ces changements-là révèlent en creux, c'est-à-dire le tempérament même de l'homme. Alors, soyons audacieux et partons d'une hypothèse qui est un peu moins à la mode que celle que j'ai développée jusque-là. Imaginons qu'au fond, l'homme n'a pas tant changé que cela. Si la modernité a transformé notre rapport au temps, on pourrait penser qu'elle n'a fait qu'accentuer une tendance qui est déjà présente depuis toujours, et qui serait cette incapacité fondamentale qu'a l'homme, même une incapacité, on pourrait dire, essentielle, une incapacité de l'homme à vivre son temps. On ne sait pas vivre dans le présent, et c'est tellement pas nouveau que Pascal nous le disait déjà au XVIIe siècle. Ah oui, alors maintenant je me sens obligé, voyez les signes du temps, de préciser qu'il s'agit bien sûr de Blaise Pascal, et pas de Pascal le grand frère, parce qu'à chaque fois que je m'adresse à des élèves de terminale, je ne sais toujours pas qui est Pascal le grand frère, mais ils me demandent Pascal le grand frère, et je vois bien que c'est une boutade, mais si quelqu'un confondrait les deux, un jour vous m'expliquerez qui est Pascal le grand frère. J'ai bien vu que c'était une émission de télé, visiblement. Ah, vous m'expliquerez. Qui est Pascal, le mystérieux grand frère? En tout cas, pour l'instant, Pascal Blaise, lui, nous dit que l'homme n'a jamais, et c'est un peu sa malédiction, été capable de vivre dans le présent, et qu'il est toujours tourné par son désir vers l'avenir, ou vers le passé. En fait, d'ailleurs, une petite parenthèse, j'en fais plein, je me gêne pas, mais on pourrait voir là deux profils psychologiques très différents. Vous savez, le type mélancolique, ce serait celui qui est toujours tourné sempiternellement vers le passé, qui ressasse, etc. Ah, j'aurais dû faire ça, mais tout s'est joué, ma vie entière s'est jouée le jour où j'ai refusé de... le jour où je suis parti de... Bon. Donc certains se reconnaissent. Mais si vous n'êtes pas mélancolique, généralement, vous êtes plutôt dans le profil maniaque, qui est plutôt tourné vers l'avenir, tout le temps. Tiens, ah, il faut qu'on fasse ça. Oh, mais non, mais on ne va pas rester tout le temps là. Non, il faut faire quelque chose d'autre. Bon, voilà. Bon. Alors, on peut être entre les deux, on peut être état limite, bien sûr, non, je plaisante. Non, on peut être entre les deux, bien sûr, mais enfin, en général, Pascal nous dit, on est souvent tourné vers l'avenir, tourné vers le passé, mais rarement dans le présent. En fait, on n'est jamais dans le présent, nous dit Pascal. Ah, j'ai oublié ma thèse fondamentale, c'est dommage, de la première partie. Alors là, je fais un saut qui va complètement vous déconnecter, mais je prends mon temps. Je ne le perds pas, ce serait trop dommage. J'avais cette idée comme ça, bon, c'est comme c'est une petite première partie, c'est une petite thèse. C'est pas... Mais voilà, c'était les speed dating. Ah, ça, j'ai quand même le droit d'en parler, c'est quand même un signe des temps. Ça, c'est marrant quand même, c'est génial. Quoi. Le type qui a inventé les speed dating. Qu'est-ce qu'un speed dating? C'est l'idée qu'on peut séduire quelqu'un, ou si peu, en 7 minutes. Un speed dating, c'est on enchaîne des gens, et en 7 minutes, c'est vrai, j'adore quoi. Moi, il me faut environ à peu près 1 à 2 ans pour séduire quelqu'un. Mais il y a des gens qui y arrivent en 7 minutes. Là, par exemple, pour essayer de vous convaincre qu'il faut pouvoir s'ennuyer, d'ailleurs peut-être que certains expérimentent déjà cet état de choses, eh bien, il me faut 1h15. Bon, mais 7 minutes pour convaincre qu'on est un type bien, génial, machin, ou qu'on est une femme superbe, intéressante, tout ce que vous voulez. Et donc, on enchaîne les gens, puis à la fin, on retient celui qui nous plaît le plus, bon. Merveilleux. Speed dating. Alors, quel est le truc? Oui, ce serait l'idée qu'on a remplacé. Oh, c'est pas énorme. Hein. Mais du coup, dans ces cas-là, et je pense que c'est de plus en plus vrai, on remplace le sentiment par l'excitation du moment. On remplace le sentiment par... Et ça, ça se voit aussi au niveau de Facebook. Oh, encore, je l'ai dit. Au niveau des réseaux sociaux, etc. Au niveau de Twitter. Ah, oh, je t'ai vu marcher dans la rue. Il faut absolument que je te le mette. Ah, oh, et devant moi, il y avait Palmade. On s'en fout. Il y avait Pascal, le grand frère. Oui, je sais même pas qui c'est. Bon. Mais voilà, l'excitation du moment, c'est-à-dire qu'il n'y a plus véritablement place au sentiment. T'as pas vu ma photo? T'as pas répondu à mon mail? Mais c'est plutôt, voilà, il faut une décharge d'adrénaline. Il faut quelque chose qui se passe, qui soit vite, qui soit fort. Bon, voilà, ça aurait été dommage de ne pas le dire. Hein. Bref, enfin je me rends compte en le disant que c'est pas si merveilleux. Bon, mais en tout cas Pascal nous dit, lui, qu'on ne vit pas dans le présent. Et Pascal avait déjà tout compris. Alors lui, je vous le cite parce que... Vraiment, Pascal, c'est merveilleux. Laissez-vous porter par ces mots. Nous ne tenons jamais au temps présent. Nous rappelons le passé, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour rater son cours, ou nous rappelons le passé pour l'arrêter comme trop prompt, si imprudent que nous errons dans les temps qui ne sont point les nôtres, et ne pensons point au seul qui nous appartient, et si vain que nous songeons à ceux qui ne sont rien et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce qu'il nous afflige. Et s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir s'échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir et pensons à disposer les choses qui ne sont pas en notre puissance pour un temps où nous n'avons aucune assurance d'arriver. Que chacun examine ses pensées. Il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir. Nous ne pensons presque point au présent et si nous y pensons, ce n'est que pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais notre fin. Le passé et le présent sont nos moyens. Le seul avenir est notre fin. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. La fin était tellement magnifique que j'en regrette presque d'avoir bafouillé deux fois. Donc je vous relis la dernière phrase quand même. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre, et nous disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons jamais. C'est beau, ça donne presque envie d'être dépressif. Non, parce qu'à chaque fois que je lis Pascal, je suis absolument déprimé pour la journée, mais je trouve ça tellement beau, tellement juste. Bon, le présent ne nous convient pas, on l'a compris. Pascal pointe notre insatisfaction du présent, qui nous apparaît toujours à la lumière de ce qu'il n'est pas, ou de ce qu'il devrait, ou ce qu'il aurait pu être. C'est-à-dire que pour accueillir avec joie ce qui vient à nous, ben, il faudrait n'avoir ni attente ni désir, nous dit Pascal. Parce que l'homme est toujours déçu par le présent. Et c'est pour ça qu'il se tourne toujours vers le passé ou vers l'avenir. Alors, c'est un problème, on a bien compris, parce que déjà, on n'est pas sûr d'y arriver dans cet avenir. Hein. Et puis surtout, passé et avenir, ben, c'est d'abord des choses qui sont présentes dans la conscience de celui qui les pense, alors que le présent, c'est ce qu'il vit, mais c'est ce qu'il chasse en permanence. Or, si par bonheur, on réussit à vivre dans le présent et qu'on est satisfait, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il se passe ça. Ah, je suis bien. Et on s'ennuie. Alors, on va voir qu'il y a une vertu, l'ennui. Ah, j'ai déjà des contradicteurs. Très bien. Bon. Non, mais ça serait bien. Mais enfin, en général, on est là, on se dit, ah, je suis bien. Bon. Alors, ça, c'est parce qu'on est dans une surstimulation. Oui, on devrait pouvoir apprécier ce moment où on est bien. Enfin, en général, on l'apprécie de moins en moins. Vous comprendrez que, bien sûr, je ne suis pas en train de dire le présent ne sert à rien. Quand j'étais petit, j'essayais, ça vous la connaissez peut-être 18 fois, faites comme si vous l'entendiez pour la première fois, j'essayais toujours, c'est ça, c'est vraiment le moment où j'ai compris le paradoxe du présent. Vous savez, c'est la prof de français qui avait tracé ce trait avec un petit trait pour le présent. Et tout là, c'était le passé. Tout là, c'était le futur. Bon, et tout le futur, il y a plein de temps. Et le présent, il y a tout petit trait. Et en gros, une fois, ma prof de français avait dit, mais quand j'étais en primaire, le présent, de toute façon, ça n'existe pas. Angoissant. Imaginez dire ça à un enfant, il est angoissé complètement, c'est pas le présent, qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, j'essayais de lui donner une légitimité, et donc je calculais le moment où il allait être le présent pour le saisir, c'est-à-dire le saisir dans un acte de conscience. Donc je disais, dans 5 secondes, ça va être le présent. 5, 4, 3, 2, 1. Et j'essayais vraiment très fort d'être dans le moment. Bon, et c'était aussitôt le passé, donc j'étais content, Mais c'est pas facile d'habiter le présent, c'est-à-dire qu'on sait pas trop quoi en faire. Bon. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bien. En tout cas, voilà. Pour Pascal, c'est bien sûr un problème, c'est-à-dire qu'on est tellement dans l'anticipation qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on a sur le moment. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, alors ça, on s'en rend vraiment compte de plus en plus, hein, mais on y reviendra à la fin. Je ne vais pas commencer à tout devancer, mais on voit bien qu'aujourd'hui, notre époque est plutôt propice à ne pas vivre pleinement le présent. C'est quand même un euphémisme. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des projets pour les 50 années à venir, c'est que vous y êtes mal pris. Bien. Mais qu'est-ce que cela traduit, plus profondément pour Pascal ? Eh bien, le fait que, puisque les hommes ne peuvent pas assumer le temps, eh bien, ils se perdent dans ce qu'on appelle le divertissement. Donc voilà, en gros, le grand problème, nous dit Pascal. Ah non, c'est là que je voulais placer le coup de l'excitation Facebook speed dating. Bon, bref, c'est que, justement, le grand problème, nous dit Pascal, c'est qu'on a remplacé des choses profondes par des choses inessentielles. Alors, ça ne date pas d'hier, parce qu'il le fait dater, il le fait remonter à peu près à Adam. C'est-à-dire que les choses essentielles, c'était Dieu, et l'essentiel, c'est nous-mêmes. Et donc, on est toujours insatisfait, parce qu'on regarde les hommes. Et les hommes sont toujours décevants. Bon, pas vous, hein, les hommes en général. Bon. Les hommes sont décevants parce que... Et les hommes sont déçus, du coup. Parce que Adam, voilà, au départ, l'homme n'était pas déchu. Il avait un amour infini qu'il destinait à Dieu. Et puis après la chute, il a un amour infini mais qu'il destine à lui-même. Sauf que lui-même n'étant qu'une enveloppe vide, bah, il est déçu. Je vous le fais, vraiment Pascal pour les nuls, c'est vraiment en 5 minutes. Hein. Mais si on approfondit un peu, qu'est-ce qu'on a ? On a l'idée, et ça on va la garder, que le commun des hommes cherche le vrai bien dans le divertissement. Et qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la poursuite des biens qui l'intéressent et non pas les biens eux-mêmes. Et ça on le voit de plus en plus souvent. Il se met à pleuvoir des cordes ou ? Ah, c'est un moteur. Bon. Donc, l'idée, c'est que... Alors, j'aime beaucoup cet exemple. Pascal prend l'exemple de la chasse. Ce qui va intéresser le chasseur, c'est évidemment pas le gibier. C'est la poursuite du gibier. C'est-à-dire, s'il tombe sur un lapin qui vient juste d'être tué, il n'est pas content, il ne l'a pas tué lui-même. Non, ce qui va l'intéresser, c'est la chasse, l'acte de chasser. Et de la même façon, on est à la poursuite d'un certain nombre de biens et non pas dans la satisfaction de ces biens-là. C'est-à-dire qu'en général, d'ailleurs, quand on... je vais arrêter avec ces rapports incessants à la modernité. J'ai vraiment avoir l'air d'un vieil imbécile. Mais, cela dit, Pascal a aussi raison en disant que le divertissement a évidemment un tort, mais en même temps, c'est une nécessité pour l'homme. Alors, la cause de tous nos malheurs, nous dit Pascal, c'est qu'on ne peut pas, on ne sait pas demeurer au repos dans une chambre. Voyez par exemple comme il est difficile de rester au repos dans une pièce, à m'écouter par exemple, c'est déjà fatigant des fois. Imaginez pour des élèves de terminale, rester au repos pendant une journée entière à écouter des gens se succéder, etc. C'est épuisant. Mais alors rester au repos dans une chambre, c'est affreux. Vous avez déjà tous connu des nuits d'insomnie, vous essayez de dormir, vous n'y arrivez pas, non pas parce que vous êtes angoissé, enfin si, sûrement au fond, mais enfin vous ne savez pas pourquoi, et du coup vous attendez que ça vienne et ça ne vient pas. Et vous restez pendant 7 heures, 6 heures, 7 heures, vous tournez, c'est affreux. Bon. Vous vous dites, je ne vais pas me lever, sinon je casse tout ce que j'ai fait jusque-là, tout mon travail visant à m'endormir. Vous mimez le sommeil pour essayer de persuader votre corps que vous allez finir par dormir, mais ça ne marche pas. Et vous voyez le temps infiniment long qui arrive. Bon. En tout cas, voilà en gros ce que nous dit Pascal. Les hommes ne savent pas demeurer au repos dans une chambre, et donc ils n'aspirent au repos que par l'agitation. C'est tellement vrai aujourd'hui. Ils n'aspirent au repos que par l'agitation. Ça veut dire que ce qui les apaise, c'est justement cette agitation. C'est les tweets, c'est tout cela, c'est la surconsommation, c'est la surstimulation, c'est McDo. J'enfonce des portes ouvertes. Vous savez qu'on va doper les goûts, ce qui fait qu'après, quand vous mangez des trucs très fins, après avoir mangé McDo, ça n'a plus aucun goût. Vous avez tellement mis des trucs avec plein de sel, plein de trucs énormes, que d'un coup, tout vous paraît fade après McDo. C'est ça le problème de McDo. Bon, surpoids, tout ça, mais c'est surtout l'idée qu'on est dans une surstimulation du goût. Bon, et on n'arrive plus, du coup, à affiner notre palais. Bref, d'une façon générale, c'est un peu le cas de tous les hommes aujourd'hui. Les hommes cherchent plus à se divertir qu'à vivre. Mais, d'un autre côté, il n'a pas vraiment le choix, pour Pascal. Parce que du divertissement viennent aussi la plupart de nos sources de joie. Alors, Pascal prend un exemple aussi rigolo, c'est l'exemple de la figure royale. Le roi, tout roi qu'il est, eh ben, si vous le laissez seul dans une pièce, ramené à sa condition, ben, il s'ennuie, comme tout le monde. C'est pour ça qu'il a une cour qui le divertit. Parce qu'il a beau être le roi, si vous ne le divertissez pas, il est comme tout le monde. Et donc il est ramené à sa condition. Donc il y a un sentiment de vide, nous dit Pascal, qui est en quelque sorte compensé par le fracas. Ou, on pourrait dire, par la stimulation, par l'incessante recherche de quelque chose qui nous occupe. Alors, vous allez me dire, la solution, je la connais. Vous essayez de me dire que la seule façon de nous en sortir, c'est de devenir philosophe. Mais pas du tout. Pas du tout. Pascal dit que pas du tout. Les philosophes qui dénoncent le divertissement n'y échappent pas. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? Eh bien, se glorifier de leur sagesse. Donc ça ne marche pas non plus. C'est-à-dire qu'ils se fuient encore eux-mêmes plus profondément que les autres parce qu'ils se masquent à eux-mêmes leur processus de fuite. Ils disent « Ah, vous cherchez à vous divertir, moi je l'ai vu, moi je suis sage, je ne me divertis pas, en fait pas du tout. » Lui, il fait semblant de ne pas se divertir. C'est encore pire. Mais moi j'ai quand même un peu une ébauche de solution. On n'a pas que des solutions à la fin, on a même dès la deuxième partie. On pourrait se dire qu'en fait, c'est qu'on a mal défini le temps. Comment sortir de cette alternative pascalienne ? L'homme est déchu, il passe son temps dans le divertissement, mais il n'a pas le choix. Parce que s'il ne se divertit plus, il s'ennuie, il est angoissé, il n'est pas bien. Eh bien, on peut se dire que c'est qu'on n'a peut-être pas assez distingué entre deux temporalités qui sont souvent mêlées, mais qui renvoient pourtant à deux dimensions différentes de notre être. Et on pourrait se dire que toute notre temporalité n'est pas entièrement tournée vers ce fameux divertissement. Et pour cela, je réhabilite Bergson, que j'ai un tout petit peu... je n'ai pas été très gentil tout à l'heure. Je l'ai fait passer pour une espèce de naïf qui croyait vraiment que la modernité allait apporter quelque chose de très profond par les machines. Réhabilitons-le et voyons un petit peu qu'il nous propose deux appréhensions très différentes. Il y a le temps et il y a la durée. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Le temps, c'est une façon un petit peu abstraite, artificielle, de le concevoir et qui est simplement utile socialement, économiquement et techniquement. C'est-à-dire qu'en gros, on va spatialiser le temps, nous dit Bergson, en le mesurant. C'est le temps des horloges, par exemple. À 8h15, voilà, c'est mon temps de ce soir, par exemple. Je regarde tout le temps pour voir si je suis vraiment en retard ou si ça va, j'ai le temps de développer. Donc ça, c'est le temps qui est complètement socialement reconnaissable. C'est le temps de l'utilité, c'est le temps... bref. Et il y a un autre temps qui est le temps réel, qui est le temps vécu, et qui est fait de durée. La durée, c'est un temps concret qui est qualitatif, qui ne se mesure pas, qui n'est pas constitué d'une suite d'instants séparés, et qui est un tout en perpétuel mouvement. Alors, justement, revenons à notre problématique. Perdre son temps, c'est non pas seulement le gaspiller, comme on le croyait jusqu'à présent, c'est pas seulement se perdre dans le divertissement, ce serait pour Bergson essentiellement ne pas être présent à soi, c'est-à-dire être seulement dans une sorte de temporalité utilitaire qui est en gros rattachable aux pressions de la société. C'est-à-dire que ce serait confondre le temps des horloges, des rendez-vous, du découpage social, du speed dating, et la durée des choses, de sa propre vie, de sa conscience, de ses souvenirs. Alors, le présent, qu'est-ce que c'est, selon Bergson ? Eh bien, c'est la conscience qui est monopolisée par les nécessités de l'action. Quand je suis dans le présent, je suis d'abord dans le besoin du moment. Mais, quand est-ce que je dépasse la simple nécessité de l'action ? Eh bien, quand je fais des fautes, des fois, pour attirer votre attention. Quand je vais chercher, puiser au plus profond de mon être. C'est-à-dire, alors tout cela est très abstrait, mais je vais vous donner des exemples, quand vous agissez de telle sorte que vous agissez d'une façon telle, je vais y arriver, que personne d'autre n'aurait agi de cette façon. En gros, il faudrait vous connaître intimement pour savoir précisément pourquoi vous agissez comme ça. C'est exactement le contraire du temps spatialisé. Si vous voulez, le temps spatialisé, c'est le temps de... c'est l'heure de sortir son parapluie parce qu'il va pleuvoir. Bon, visiblement, c'était bien un moteur. C'est le temps de... Donc, dans ces cas-là, quoi, je vois qu'il pleut, je fais comme tout le monde. Par habitude, je sors mon parapluie. Donc là, c'est vraiment... je vais à mon rendez-vous, comme tout le monde, je mets mon réveil, etc. Ça, c'est le temps de n'importe qui. La durée, en revanche, qui rejoint vraiment le centre de votre être, c'est le moment où vous faites quelque chose qui ne ressemble... finalement, à rien de ce qui a été vécu. Un exemple, cette fois-ci littéraire, Antigone. Antigone, vous le savez, en dépit de l'interdit royal, décide d'aller enterrer son frère Polynice. Elle sait qu'en le faisant, elle va se faire tuer, condamner en tout cas, mais elle le fait quand même. Pourquoi le fait-elle alors qu'elle, a priori, nous, on aurait fait probablement autre chose, on n'est pas... Eh bien, pour le savoir, il faut être Antigone. C'est-à-dire que, pour comprendre véritablement ses motivations, il faut repasser par sa vie entière. C'est-à-dire qu'elle fait un acte qui résume une partie de sa vie. La totalité de ses souvenirs avec son frère. Ce que représente pour lui l'interdit royal, etc. L'idée, c'est que quand vous puisez au plus profond de votre être, à ce moment-là, là, vous habitez vraiment votre temps. Bon, tout cela est encore un peu théorique, mais... Bergson, pour bien montrer la différence entre les deux temporalités, utilise l'image de la mélodie. Ça illustre, à mon avis, très bien le temps de la montre et la durée elle-même. Si on voulait saisir la mélodie en fractionnant chaque note, comme on le ferait avec le temps spatialisé, eh bien, c'est la mélodie elle-même qui disparaîtrait. D'ailleurs, on le voit très bien, accélérer votre Mozart, je sais pas, bon, ça change complètement, c'est plus le même morceau. Accélérer le requiem de Mozart, c'est complètement absurde. Bien, donc, la mélodie elle-même ne se réduit pas à une succession d'instants qui seraient autant de notes. C'est véritablement ce moment où chaque note va amener la suivante et emmagasiner la précédente. Et il en va de même de votre conscience. C'est-à-dire un véritable acte, c'est quelque chose qui, au moment présent, va puiser dans tout ce que vous avez déjà vécu et donner du sens, d'une façon tout à fait personnelle, à ce qui va se passer. Alors j'avais un petit extrait, si vous me permettez, qui était, c'est toujours magnifique quand c'est Bergson. La durée réelle est ce que l'on a toujours appelé le temps, mais le temps perçu comme indivisible. Que le temps implique la succession, je n'en disconviens pas. Mais que la succession se présente d'abord à notre conscience comme la distinction d'un avant et d'un après juxtaposé, c'est ce que je ne saurais accorder. Quand nous écoutons une mélodie, nous avons la plus pure impression de succession que nous puissions avoir. Une impression aussi éloignée que possible de celle de la simultanéité. Et pourtant, c'est la continuité même de la mélodie et l'impossibilité de la décomposer qui font sur nous cette impression. Si nous la découpons en notes distinctes, en autant d'avant et d'après qu'il nous plaît, c'est que nous y mêlons des images spatiales et que nous imprégnons la succession de simultanéité. Dans l'espace et dans l'espace seulement, il y a distinction nette de parties extérieures les unes aux autres. Je reconnais d'ailleurs que c'est dans le temps spatialisé que nous nous plaçons d'ordinaire. Nous n'avons aucun intérêt à écouter le bourdonnement ininterrompu de la vie profonde. Et pourtant, la durée réelle est là. C'est grâce à elle que prennent place, dans un seul et même temps, les changements plus ou moins longs auxquels nous assistons en nous et dans le monde extérieur. Bon, je vous lirai bien tout le livre, mais je vais éviter. Ça, vous le trouvez dans la conférence magnifique « La perception du changement ». La pensée et le mouvement étant un recueil de conférences. Bien. Alors, que nous dit en gros Bergson ? Il y a deux mois. Un mois superficiel et un mois profond. Le mois superficiel, c'est notre mois de tous les jours. C'est le mois qui rentre du travail, qui est fatigué, qui fait des actions habituelles, comme tout le monde le ferait. Et le mois profond, c'est le mois qui apparaît de temps en temps, lorsqu'on prend véritablement le temps d'être soi-même, et que, véritablement, on agit à partir, enfin, dans un acte qui définit à peu près la totalité de notre être, ou en tout cas une bonne partie. Alors, justement... Oui, venons-en à la dernière partie, parce que c'est quand même là où je voulais vraiment arriver. On l'a vu, l'homme ordinaire, on a fait une grosse critique de l'homme ordinaire, c'est celui qui sans cesse échappe au présent, en raison de son désir, qui fuit dans le divertissement, sa vie. Et tout cela pourrait s'expliquer finalement par une crainte de la mort. En tout cas, pour Pascal, on se réfugie dans des divertissements qui nous éloignent du véritable sens de la vie, parce que justement, on essaye un petit peu de s'échapper, d'échapper à la vie. Et c'est justement ce qu'on va essayer de traiter plus profondément maintenant, que serait le temps d'une existence authentique. D'où le titre un peu sombre, je le reconnais, la mort, l'ennui, l'angoisse et la vie authentique. Mais ça se termine bien. Et la vie authentique. Alors, pour le comprendre, on va partir d'un très beau texte de Sénèque et qui est assez rigolo. Je dis rigolo, c'est pas du tout vrai, mais ça vous donne un petit peu le bénéfice, enfin, ça m'accorde le bénéfice du doute, et du coup, je me convainc moi-même. Alors, les plus grands génies, nous dit Sénèque, ont beau tomber d'accord sur l'aveuglement de la nature humaine, ils ne s'en étonneront jamais assez. Vous vivez comme... Alors, ils vous voient. Vous vivez comme si vous étiez destiné à vivre toujours. Jamais vous ne prenez conscience de votre fragilité. Vous ne faites pas attention à tout ce temps déjà passé. Vous dissipez comme si vous aviez des ressources inépuisables, alors que peut-être ce jour que vous consacrez à tel homme ou à telle occupation est le dernier. Habité par toutes les craintes propres à un mortel, vous avez en même temps tous les désirs d'un immortel. Tu entendras, maintenant il vous tutoie, tu entendras la plupart des gens déclarer « À 50 ans, je m'éloignerai des affaires. » À 60, je me démettrai de toutes mes fonctions. Et qui t'a garanti que ta vie durera au-delà ? Qui admettra que le sort s'accorde à tes plans ? N'as-tu pas honte de te réserver le reste de ta vie et de destiner au progrès de ton âme le temps seulement où tu ne seras plus bon à autre chose ? N'est-ce pas bien tard de commencer à vivre au moment où il faut cesser ? Comme la nature humaine est sottement insouciante, lorsqu'elle repousse à 50 ou 60 ans les saines résolutions et prétend commencer à vivre à un âge auquel peu sont parvenus. Bon. À son époque, j'ai envie de dire. 50 ou 60 ans, on y arrive. Bon. Alors, c'est pas très réjouissant, mais c'est stimulant. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Bien, en général, alors ça, c'est déjà, ça, c'est au départ un fameux débat grec. Le débat est le suivant, initié par Platon. Platon nous dit, il faut une certaine maturité pour philosopher. Enfin, voilà, c'est très simple. Hein. Quand vous êtes un peu trop jeune, vous n'êtes pas du tout mûr pour la philosophie, vous dites n'importe quoi, vous réussissez à vous convaincre vous-même, en tout cas. Et finalement, vous vous éloignez d'autant de la philosophie. Donc, Platon estimait vers 40, 50 ans le bon moment pour s'y mettre. À l'inverse, d'autres disaient non, il n'est jamais, alors par exemple Épicure, il n'est jamais trop tôt pour apprendre à philosopher. Il faut justement essayer d'être sage le plus vite possible, etc. Alors, trop tôt, selon Platon, c'est se gâcher toutes les chances et c'est complètement absurde, c'est prendre de mauvais plis. Oui, mais trop tard, c'est justement toujours différer un moment qui est finalement le sel même de notre vie, apprendre à être sage. En tout cas, l'aveuglement des hommes scandalise Sénèque et il vilipende les hommes pour la façon dont ils dépensent leur temps, leur vie. C'est-à-dire qu'on a, nous dit Sénèque, une grande prodigalité, mais qui ne montre que notre superficialité. C'est-à-dire qu'en général, on est prodigue, oui, on dépense beaucoup en temps, en énergie, en argent. Mais tout cela, nous dit Sénèque, pour nous détourner en fait de nous-mêmes. On dilapide, c'est ça l'idée centrale de Sénèque, notre vie comme s'il s'agissait d'un simple bien matériel, comme si on était des simples enfants inconscients de la valeur qu'elle a. Or, évidemment, il n'y a pas de bien plus précieux. Alors, d'emblée, on pourrait mettre une distinction dans cet esprit-là entre vie biologique et vie de l'esprit. C'est-à-dire qu'on peut vivre longtemps, mais Sénèque nous le dit, tout en existant fort peu. Ah oui, il y a toujours cette idée de vivre intensément une vie courte. Enfin, le mieux, ce serait de vivre intensément, évidemment, une vie longue. Mais ce que Sénèque, de toute façon, déplore, c'est les gens qui, justement, n'ont jamais essayé véritablement de vivre en existant vraiment. Alors, qu'est-ce que c'est que exister vraiment pour Sénèque ? Mais on va essayer de développer un peu plus. C'est de prendre une décision, de s'en tenir à elle, donc en gros, de vivre dans un effort, de peser nos décisions et de resserrer notre être autour d'elle, c'est-à-dire se dire « mais qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ça peut passer par exemple, alors j'essaie de prendre des exemples toujours un peu, voilà, chez moi, c'est passé par renoncer à la télé. C'est-à-dire à force de voir toujours la même chose aux infos, d'être inondé par des choses comme ça, paf, d'un jour vous dites « j'en ai marre », vous arrêtez, paf, et vous y tenez. Alors, je ne sais pas si c'est vivre intensément, mais du coup, vos soirées se ressemblent un peu moins. C'est déjà plus intéressant. Vous êtes obligé de trouver quelque chose qui vous occupe. Donc vous vous mettez à parler à votre femme, vous mettez à parler à vos enfants, vous découvrez tout un monde nouveau. Et eux aussi. Bref, c'est un exemple débile, mais même dans le quotidien, on peut trouver là des actes un peu extrêmes qui viennent à contre-courant et qui, d'un seul coup, justement, coûtent un effort, mais vous permettent de transformer un petit peu votre routine. Bon. Parce que le problème de Sénèque, qui était déjà soulevé par Spinoza, c'est qu'en général, notre vie dans l'excitation, c'est une vie dans la passion. Et qu'est-ce qui se passe dans la passion ? Eh bien, on est passif. Passion, au départ, ça ne vient pas de cette espèce de courant enflammé qu'on voit chez les romantiques. Non, la passion, ça vient de passio, et c'est le fait, justement, d'être agi par, agi comme de l'extérieur. Si il est plus simple pour vous, pour nous, justement, de nous perdre dans un certain nombre de divertissements, encore une fois, c'est parce qu'on est, en général, agi par notre corps, plus que par notre esprit, plus qu'on agit par notre esprit. Voilà en gros ce qu'il nous dit. Donc on dilapide notre temps, on évite de penser à l'essentiel, et bien sûr, il est toujours assez tôt pour essayer d'y songer. Voilà en gros ce qu'il nous dit. Donc en gros, je résume, hein, mais il faut vraiment que j'accélère, parce que je n'ai encore pas dit ce que je voulais dire. Ce n'est pas sans raison que les hommes fuient éternellement leur vie, c'est simplement parce qu'ils agissent comme s'ils ne devaient jamais mourir. Alors c'est très simple, pourquoi vivent-ils comme s'ils devaient ne jamais mourir ? Là aussi, Bergson a une hypothèse amusante, bon, parmi d'autres. Hein. Dans les deux sources de la morale et de la religion, il nous dit que cette espèce de croyance tacite en l'immortalité vient du fait que il part de l'idée que l'animal n'en a pas, il ne se pose pas la question de la mort, il fait le mort, mais en fait, selon Bergson, l'idée de faire le mort, c'est simplement, la plupart du temps, ne plus bouger parce qu'il sait que ça l'arrange bien. C'est-à-dire, il a vu qu'en se mettant par terre comme ça, le prédateur s'en va. Et à ce moment-là, du coup, nous, on dit « Ah, il fait le mort ». Mais Bergson dit non, il n'a pas du tout conscience de sa mort. A priori, on pourrait se dire que c'est tout à fait mécanique. Il se dit « En ne bougeant pas, on ne me verra pas ». Un peu comme l'autruche n'essaye pas de voir ce qui se passe du côté des vers de terre, mais se cache en se disant que si elle voit rien, les autres ne la voient pas non plus. Bon. Mais ce que dit Bergson, c'est que nous-mêmes, on pourrait être freinés entièrement par la perspective de la mort. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va développer des croyances qui diffèrent cette prise en compte de la mort, pour nous éviter de nous empêcher d'agir. Donc, en gros, on va... Bon, ça veut pas dire, pourtant, Bergson était chrétien, mais on va imaginer une vie immortelle après la vie, donc la survie de l'âme, on va, etc. Tout cela nous empêchera trop de penser à la mort et nous permettra de ne pas renoncer à nos actions, à ne pas être toujours dépressif, etc. Bien, mais en gros, voilà ce que nous dit Bergson. L'homme, lui, évidemment, vit avec cette malédiction, il sait qu'il va mourir. Mais voyant, et c'est là l'idée que je trouvais rigolote, voyant que ça n'arrive jamais, de toute votre vie, c'est jamais arrivé, à chaque instant ça n'arrive pas, eh bien il se dit, bon bah en fait non, ça va, jusqu'ici tout va bien, c'est le fameux jusqu'ici tout va bien, je me vois, non je suis vivant, ça va, non, ça fait quand même, ça fait 35 ans, on sait mon âge, 35 ans que je suis vivant, c'est jamais arrivé, je vois pas pourquoi ça arriverait demain, après-demain, etc. Donc voilà en gros le mécanisme de croyance autour de la mort selon Bergson. On diffère, on se dit que c'est pas encore arrivé, il y a peu de chances que ça arrive demain. Du coup, on remet ça à plus tard. Et du coup, on se dit que c'est pas finalement si grave si je perds une soirée à regarder Fort Boyard. Mais c'est toujours la même chose, c'est pas grave, j'aurai encore plein d'autres occasions de le faire. C'est précisément le contraire que va pronostiquer Heidegger. Que va nous dire Heidegger ? Eh bien, le principe même de l'homme, c'est de savoir qu'il est fini. Et qu'il ne faut absolument pas dilapider son temps n'importe comment, mais il faut qu'il fasse un avec cette finitude. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte, bon, qu'il n'y pense pas sans arrêt non plus, mais qu'il accepte de vivre cette angoisse, de savoir qu'il est fini. Mais qu'est-ce qu'il va gagner derrière ? Une véritable liberté et un véritable horizon énorme qui va se dévoiler à lui. Comment comprendre une chose pareille ? La mort, comme ça, l'idée même de la mort est extrêmement violente. D'ailleurs, la mort de nos proches, c'est quelque chose qui nous arrache justement à cette indolence, hein, de se dire « mais moi, c'est toujours pas arrivé ». Dans ces cas-là, c'est terrible. Mais la mort, c'est aussi quelque chose qui va donner du sens à la vie, tout simplement. Alors là, c'est pas du vrai gros Heidegger. Pour l'instant, je le déplace un peu du côté de Simone de Beauvoir. Que va-t-elle essayer de nous faire saisir dans « Tous les hommes sont mortels » ? Eh bien, elle va raconter dans cet ouvrage la lente dévitalisation d'un homme qui a eu l'imprudence de boire un élixir d'immortalité qui va provoquer son désespoir. C'est souvent, voilà, je dis à mes élèves, tiens, est-ce que finalement ce serait pour vous une chance absolue d'être immortel ? Bien sûr, tout le monde d'emblée saute sur l'occasion pour dire « oui, bien sûr ». Je suis pas très content de mourir, etc. Non, j'essaie de alors je les convainc pas tous. Mais moi, j'en suis vraiment convaincu. Il n'y aurait aucun intérêt à cette vie si elle était immortelle. Pourquoi ? Parce que justement, tous les jours se ressembleraient. Tout ce que vous faites d'important pourrait être fait dans 500 000 ans, ou dans 50 ans, ou dans 500 ans. De toute façon, le temps n'aurait plus aucune importance, de toute façon, vous n'allez pas mourir. Donc, à ce moment-là, vous n'avez plus aucun intérêt à privilégier tel jour plutôt que tel autre. Vous voyez comme déjà, on vit quoi ? Allez, soyons gentils, 95 ans ? Vous voyez la façon dont on gaspille énormément de temps quand on en a beaucoup. Bon, si vous saviez qu'il n'y a pas d'urgence, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, il n'y aurait pas non plus d'intérêt. Il n'y aurait pas non plus intérêt. J'ai perdu mon mot. Tout simplement, on pourrait se dire, alors, si je vis éternellement et que les autres ne vivent pas, évidemment, je ne peux plus m'attacher vraiment à quelqu'un parce que je vais voir défiler à la Highlander des tas de gens qui vont mourir au fur et à mesure. Mais même si tous les autres étaient immortels, ce n'est pas beaucoup mieux, vous passeriez votre vie dans un moment où rien n'aurait véritablement d'importance. Vous disputez avec quelqu'un, vous dites, non mais il faut absolument que je rattrape le coup, parce que rester 10 ans avec quelqu'un qui vous fait la tête, c'est dur. Mais si finalement le temps est infini, bon, pas besoin de vous rabibocher du tout. Bref, en tout cas, dans Tous les hommes sont mortels, évidemment, il n'y a plus d'intensité pour celui qui a bu l'élixir d'immortalité, il n'y a même plus de morale, et tout s'efface. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'enthousiasme, parce que l'enthousiasme, ça ne dure pas tout le temps, en général. L'enthousiasme n'est pas immortel. Alors, justement, maintenant revenons à Heidegger, que nous dit-il dans Être et Temps ? Eh bien, l'anticipation de la mort va révéler à la conscience que sa possibilité la plus extrême, donc la mort, équivaut à l'exténuation de toutes les possibilités. Autrement dit, nous dit Heidegger, la mort possibilise. En acceptant nos finitudes, en se rendant compte qu'on n'a pas finalement tout le temps du monde devant soi et qu'il faut bien faire quelque chose de notre vie, il y a une sorte d'appel de la conscience qui réalise qu'on ne peut pas sans cesse se dérober dans la vie quotidienne, dans l'anecdotique, dans ce qui ne compte pas. Et qu'il faut, c'est vraiment un appel à faire quelque chose de cette petite temporalité qui est la nôtre. Donc la mort possibilise, c'est-à-dire qu'elle rend tout possible. Tant qu'on diffère cet horizon, on vit dans une sorte de néant de possible, où finalement rien n'a véritablement d'importance. Donc il faut véritablement accepter, de temps en temps, de vivre cette angoisse. Et l'angoisse, nous dit Heidegger, première distinction très importante, c'est pas la même chose que la peur. Les hommes aujourd'hui vivent dans la peur, ils ne vivent absolument pas dans l'angoisse. On dit « je suis angoissé », mais en fait on le dit « oui, on est angoissé ». C'est pas l'angoisse, au sens profond d'Heidegger. Qu'est-ce que c'est que la peur ? C'est toujours avoir peur de. J'ai peur de rater mon rendez-vous. J'ai peur de rater mon train. J'ai peur de mourir parce que je suis pendu à une corde et elle pourrait très bien lâcher. L'angoisse, c'est véritablement considérer sa vie. C'est véritablement éprouver le vide de l'être. C'est une sollicitation à se reprendre, nous dit Heidegger, et en quelque sorte à vivre vraiment, à exister. Aujourd'hui, on est véritablement dans un temps, non pas d'angoisse, mais plutôt de myriades de peurs. J'ai peur que mes enfants restent trop souvent devant... Alors voilà, parce qu'ils n'ont pas la télé, mais alors du coup, ils vont voir Cyprien sur Internet maintenant. Alors évidemment, ils voient mes enfants, ma mine déconfite à chaque fois. Je trouve pas ça drôle, en général. Mais, Oui, voilà, bon. En quelque sorte, je ne sais plus ce que je disais. Il faudrait que je réécoute. Mais, voilà, on est dans la peur... Peur de rater sa blague, notamment, pour Cyprien, et non pas dans l'angoisse. L'angoisse qui, véritablement, met la vie en perspective. Et justement, là, je viens au cœur de ce que je voulais essayer de vous montrer ce soir, prendre son temps, c'est pas seulement accepter sa mort, c'est pas seulement se voir comme un être fini, c'est d'abord, peut-être, faire une autre épreuve de l'angoisse à travers l'ennui. Prendre son temps, c'est peut-être, au fond, accepter de s'ennuyer. Alors, je vous balance la thèse qui a animé un peu tout ce que je voulais vous dire, je vous la balance en détail, hein, vous avez le temps de vous ennuyer encore. L'ennui, c'est peut-être ce qui manque à la société d'aujourd'hui. Je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui refuse l'ennui. D'ailleurs, on le voit. Les élèves, en général, on essaye de faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas. Et c'est un tort. Il faut qu'à des moments, il s'ennuie. La philosophie, elle-même, doit se montrer ennuyeuse. On ne peut pas vivre toujours dans la stimulation, dans l'amusement, etc. On le voit très bien avec les films. Vous regardez, par exemple, La vie d'Adèle, vous pouvez vous dire, c'est un grand film, il est difficile de vous dire, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Vous pouvez vous le dire. Mais il y a des moments où on se dit, voilà, Parfois, on a besoin de s'ennuyer, mais ça peut être devant un Tarkovsky, devant un Bergman, devant ce que vous voulez. Choisissez vous-même votre auteur cher à vos yeux, mais qui vous ennuie. Moi, ça m'est même arrivé, enfin, ça m'arrive tout le temps devant Woody Allen. J'adore Woody Allen, mais je m'ennuie toujours à un moment donné, quoi. La Blue Jasmine, c'était superbe. Vraiment, c'est un film que j'ai trouvé absolument admirable, mais j'avoue que je me suis ennuyé. Mais c'est pas grave, c'est important même. Dans un sens, après coup, ça vous vient, vous dites « Ah, mais en fait, c'était profond. » Alors qu'il y a tellement de films qui vous stimulent, qui cherchent toujours à vous stimuler, et puis vous oubliez aussitôt que, voilà. Il est rare de trouver un film à la fois hyper stimulant et en même temps hyper profond. Et bien pour la philo, c'est un peu pareil. La philosophie doit ennuyer un peu, parce que derrière l'ennui, et bien il y a parfois aussi la profondeur qui peut s'en dégager. C'est-à-dire que la profondeur est toujours un peu, parfois, ennuyeuse. Un peu. Il ne faut pas qu'elle le soit trop. C'est le contraire un peu de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui en classe. On vous sollicite pour vraiment... Alors voilà, plus de cours magistraux, ils vont s'ennuyer, il faut qu'ils fassent des petits ateliers où ils font semblant de découvrir par eux-mêmes les choses qu'en fait, on a marquées sur notre feuille pour qu'ils les trouvent. Bon. Il faut faire des trucs rigolos, il faut, comme ils zappent tout le temps, il faut absolument enchaîner les considérations pour qu'ils ne s'ennuient pas. Non, surtout pas. Comme ils zappent tout le temps, il faut les ennuyer pour qu'ils redécouvrent l'attente et l'ennui. Bon, pardon. Mais j'y tiens. On ne peut pas faire prout-prout, poète-poète tout le temps. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai dit prout-prout, je voulais dire poète-poète. Peut-être pour vous divertir, je ne sais pas. On ne peut pas faire poète-poète, voilà, sans arrêt. Il y a un moment où il faut accepter d'essayer de prendre justement le temps d'exposer quelque chose. Alors voilà, maintenant j'espère que vous êtes convaincus et que vous allez pouvoir éprouver l'ennui, parce que je vais vous décrire les trois formes d'ennui chez Heidegger. Donc vous allez pouvoir expérimentalement... Voilà, sentir au plus profond de vous cet ennui. Donc je vais aller vite parce qu'il me reste à peu près 10 minutes. Dans les concepts fondamentaux de la métaphysique, Heidegger distingue trois sortes d'ennui. La première, c'est le passe-temps. C'est marrant parce que Heidegger l'avouait lui-même, hein, et c'est très très ennuyeux cette description de l'ennui. Et en même temps, c'est très très stimulant. Mais il le dit. C'est marrant. Donc on l'éprouve, si vous voulez. Et justement, le passe-temps, c'est l'attente d'une correspondance dans la gare. Et il fait au moins 100 pages dessus. Mais bon, l'attente... Non, peut-être pas 100 pages, j'en rajoute un peu, mais pas loin. 100 pages sur l'attente d'un train dans la gare. Qu'est-ce qui se passe quand vous attendez votre train ? Vous avez une correspondance, c'est une petite gare de campagne, il n'y a absolument rien à faire, vous n'avez rien prévu, le train arrivera dans une heure et vous n'avez même pas le temps de sortir avec vos bagages. Vous êtes condamné à rester sur le siège, qu'est-ce que vous faites ? Vous lisez déjà, vous essayez de lire un truc, tous les petits papiers qui passent près de vous, ce qu'il y a écrit derrière votre paquet de cigarettes, vous le relisez au cas où, vous essayez de lire tous les panneaux d'information. Bon, vous trépignez, alors ça vous agitez la jambe, bon, ça ne fait pas beaucoup passer le temps, vous faites les 100 pas, etc., etc. Tout est incroyablement lent, monotone, insipide, fatigant, et là vous avez l'impression d'être traîné en longueur. Première forme d'ennui, elle n'est pas très profonde, on l'a tous éprouvé. Il y a une deuxième forme d'ennui. Alors là, c'est plus intéressant. C'est lorsque c'est la situation entière qui devient le passe-temps. Et là, l'exemple est absolument génial. Je vais dans une soirée avec des amis, des bons amis. Je rigole bien. D'ailleurs, je dis deux, trois petites choses qui ont bien fait marrer et je suis bien content de moi. Je rentre chez moi et j'ai un sentiment de vide. J'ai passé une bonne soirée. Mais en fait, je me suis ennuyé. Ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu parce qu'en fait, j'ai passé une bonne soirée. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est une soirée comme tellement d'autres soirées, que j'ai rien fait de... Voilà, que j'ai fait en fait finalement un truc un peu mécanique. Bon, j'ai fait mon mariole comme je fais tout le temps. J'ai écouté les gens parler comme je fais tout le temps. Et il y a quelque chose, on ne sait pas quoi, mais quelque chose qui d'un seul coup vous fait prendre conscience que c'est la soirée elle-même, mais fut-elle bonne, qui représentait le passe-temps. Donc, il y a déjà des moments un peu comme ça qui peuvent être un paradoxe, où c'est la situation elle-même qui sert de passe-temps, qui peut vous donner un sentiment d'ennui, de perte de temps. Mais tout cela s'efface devant la troisième forme d'ennui, qui est l'ennui profond. L'ennui profond, lui, n'admet aucun passe-temps. C'est lorsque vous êtes, en quelque sorte, envoûté par l'ennui, et que d'un seul coup, tout vous apparaît égal. C'est-à-dire que vous ne trouvez rien spécialement à faire. Et rien de ce que vous pouvez faire ne vous amuse, vous ne trouvez rien à faire. Vous savez, c'est le moment un petit peu où vous avez, par exemple, ça faisait 2 mois que vous attendiez ce moment, vous avez une journée de libre, entièrement libre, sans enfant, sans votre femme, sans votre mari, juste l'appartement pour vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez, aller au cinéma, lire un livre, et vous êtes débordé par tout ça, et en fait, vous ne faites rien. Vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire, vous ne faites rien. Vous passez votre journée entière à rien faire, à vous demander ce que vous pourriez faire. Et de toute façon, vous n'avez aucun intérêt à le faire, vous n'arrivez pas. Vous êtes dévoré d'ennui. Bon, et bien ça, en quelque sorte, pour Heidegger, ben, l'ennui le plus profond, c'est le moment où l'ennui flirte avec l'angoisse. Mais une angoisse qui est saine, au fond. Parce que c'est le moment où, finalement, toutes les choses qui vous occupent le reste du temps est mis sur le même plan. Et qu'est-ce qui apparaît derrière ? L'être. C'est-à-dire l'être lui-même. Non pas tel ou tel étant, selon le vocabulaire d'Heidegger, par exemple, cette télécommande pour regarder la télé, etc., telle ou telle chose, ce cinéma pour me divertir. Mais véritablement, l'être. Bon. Alors, je ne vais pas faire tout un truc sur l'être, mais peu importe. L'idée, c'est que cette tonalité-là annonce la liberté, selon Heidegger. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a un appel et quelque chose qui mériterait d'être approfondi. C'est-à-dire que dans ces cas-là, Heidegger nous dit « mais allez jusqu'au bout de l'ennui, acceptez de vous ennuyer ». Et voyez ce qui peut en sortir. Alors, il n'est pas le premier à le dire, Nietzsche avait déjà montré la fécondité de l'ennui et son lien intime avec la pensée. La pensée peut être ennuyeuse, mais surtout la pensée vient dans l'ennui. Quand vous êtes dans l'excitation, dans le débordement affectif, ben vous n'avez pas le temps de penser. Quand au contraire vous êtes seul avec vous-même, quand vous vous ennuyez un peu, ben c'est peut-être le moment où vous pensez le plus efficacement. Donc, en quelque sorte, voilà en gros ce que pourrait être le mal de nos jours, c'est qu'on refuse toute forme d'ennui. On cherche la stimulation. On cherche, voilà, mais ça prend des tournures que je ne comprends même pas. Le tweet, je n'ai pas compris. Il faudrait qu'on m'explique en quoi c'est intéressant. Mais bon, ça c'est vraiment juste histoire de... Mais ça, expliquez-moi. C'est vraiment des banalités absolues que les gens se racontent en permanence sur des... Bon, phrase qui doit être extrêmement limitée en caractère et en intérêt. Bref, il faut chercher d'un seul coup la stimulation et derrière, qu'est-ce qui échappe ? Bah souvent la profondeur. Alors, je voulais faire quelques observations finales sur les méfaits psychologiques et neurologiques de la perte de capacité d'attente chez les enfants et les adultes de nos jours. Alors, Jean-Claude Dreher, qui est chercheur au CNRS, fait notamment ce constat dans un... Parce que là, je n'ai pas pu m'empêcher de le lire. Hein, ce mois-ci, je vous le conseille, si cela vous intéresse, mais plutôt pour l'aspect psychologique. Dans Cerveau et Psycho, il y a un truc sur la temporalité, sur le temps pour la conscience. Je vous résume en deux, trois mots ce que j'ai pu retenir. C'est que, d'une part, sachant que savoir attendre suppose de savoir moduler son impulsivité cognitive en mobilisant certaines aires cérébrales. Le réseau fronto-pariétal. Donc, je vais vous expliquer. Et sachant que cette incapacité de contrôle cognitif a tendance à s'effacer en raison d'environnements qui donnent tout de suite et qui ne sont pas favorables, le stress provoqué par un monde toujours plus rapide diminue également la capacité de patienter du cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, le fait de ne plus accepter l'attente, par exemple, pouf, je peux avoir mon information immédiatement sur Internet. Pouf, je peux voir en direct tout ce qui se passe dans tout le monde. Pouf, à mon travail, on ne me permet même plus de tranquillement m'ennuyer, il faut toujours qu'on me surcharge de boulot. Bon, l'idée de ne plus supporter l'attente, être habitué à l'attente plutôt, va transformer vos processus cognitifs, et moins vous attendez, moins vous êtes capable d'attendre. Voilà déjà le premier constat. Mais véritablement, hein, attention, c'est vraiment une affaire de cognition. Ça vous transforme non seulement vos habitudes cérébrales, mais aussi tous les liens qui peuvent se faire. Et du même coup, qu'est-ce qui se passe ? Et bon, on se rend compte que, alors, on a fait des tests assez amusants, on propose à un patient, c'est ça justement, être capable de différer l'impulsivité. On vous propose un billet de 20 euros tout de suite, ou 40 euros la semaine prochaine. Et bien de plus en plus de monde veulent 20 euros tout de suite. Une réponse incontrôlée, parce que c'est... La satisfaction immédiate, et c'est presque quelque chose, enfin c'est des réponses qu'on leur demande de produire le plus vite possible, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus constaté. Votre cerveau vous pousse à la stimulation immédiate plutôt qu'une plus intéressante mais différée. C'est-à-dire que la capacité d'attendre, moins vous la manifestez, moins vous êtes capable de la manifester. Et donc, les enfants, avant c'était les enfants rois à qui on dit jamais non, la frustration, etc. De plus en plus de psychiatres et de psychanalystes assistent à des adultes rois qui refusent absolument toute forme de mise à distance de leur impulsivité. Donc on a des espèces d'adultes tyrans. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Alors attention, je vous cite entre autres les fâcheuses conséquences de tout cela. Diminution de la mémoire de travail, qui accompagne justement la possibilité de se disposer à l'attente. Diminution de la capacité de se concentrer, ben ça on l'a tous bien remarqué. Diminution de la possibilité, pas vous, hein, attention, je dis juste en classe, etc., par rapport aux enfants, hein, vous avez l'air très concentré au contraire. Mais je veux dire, en général, à force de surstimuler, ben, il n'y a plus de possibilité pour l'enfant en général de se concentrer. Diminution de la possibilité de différer un plaisir ou une stimulation. Augmentation de l'agressivité et des comportements impulsifs. Et on a de nouvelles formes, notamment de dépression cyclothymique, ce qui alterne des phases d'anxiété très prononcées et de colère irrationnelle. C'est-à-dire, en général, on assiste à une incapacité progressive à gérer la frustration. Et on a aussi remarqué que plus vous habituez de nouveau à attendre, plus vous êtes de nouveau capable d'attendre. C'est-à-dire que si vous réussissez à refuser de, je ne sais pas, d'accepter cette sollicitation immédiate, et ben vous vous disposez progressivement de nouveau à être capable de le reproduire. Donc il y a quelque chose de physique, une agressivité liée à l'absence de capacité d'attendre et au refus de l'ennui. Donc, quelques mots de conclusion, parce que j'ai déjà dépassé un peu l'heure. Ainsi pourrions-nous caractériser notre époque. Elle est en proie à l'ennui, mais à un ennui nouveau, une sorte d'ennui superficiel qu'elle cherche constamment à refuser. On va chercher en permanence l'absence d'oppression, et donc la satisfaction immédiate. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour nous procurer un certain bien-être, mais peut-être aussi pour nous détourner un peu plus de nous-mêmes. Donc, la phrase de conclusion sera la suivante. L'homme, au lieu de réprimer l'ennui profond, ne peut-il avoir le courage de faire renaître en lui cette tonalité? Je vous remercie de votre attention.